Chapitre 2. Cinq jours après, Hélène, ayant réfléchi qu'Isidore la Griffoule n'était pas un homme si redoutable et qu'avec du tact, elle le saurait diriger dans le chemin de la raison, accepta le mariage. Isidore exulta d'enchantement, sa mère encore plus, qui était fière maintenant de le garder dans Usclas. Il proclama sa chance par toute la ville. Et quelle jolie femme, cette taille fine, les épaules un peu tombantes, le visage d'un ovale délicatement dessiné et les cheveux si noirs, si drus, sur un teint mat. Elle n'avait besoin d'aucune coquetterie pour attirer l'attention. Isidore, tout gringalé, la figure mièvre aux trois quarts dévorée par une barbe aux luisants de charbon, avait bien le droit de s'enorgueillir de ce trésor de demoiselle à qui le travail ne faisait pas peur. Dans la rue, les passants le félicitèrent à l'envi, et il ne doutait pas, dans son imagination fertile, que tout le monde participât sincèrement à sa gloire. Il se trompait. On savait maintenant sans aucun doute son intention de fonder sur le carreau de la halle, à la maison du père André, un grand magasin de lainage et de s'y emparer de la nombreuse clientèle de M. Fornet. Celui-ci n'était pas content. Très calme d'habitude, il s'agitait depuis quelques jours à la recherche d'une innovation magnifique qui pût entraver les projets de son concurrent. Tout petit, plus petit même que ce Lagrifoule, en son costume de 1830, une redingote à basque menue et de drap vert, comme son pantalon, sa cravate de soie écarlate, son chapeau de feutre verni par l'usure, car il était avare, un chapeau tyrolien qui laissait à découvert ses cheveux blancs, il ne sortait guère que dans son quartier et muni d'un bâton noueux. On l'avait toujours vu en ce costume de carnaval et il possédait tant d'argent que, au lieu de le trouver ridicule, on l'honorait d'une considération flatteuse. Pourtant, il tremblait de tout son corps fluet et dans son visage rose, ses yeux pâles s'allumaient de colère quand il pensait aux menaces de la Griffoule. Chaque soir, sous la halle, alors complètement vidée de ses éventaires, il se promenait avec ses camarades du voisinage, lesquels, également enveloppés de longs burnous à capuchon, marchaient à leurs pas cadencés, bien en ligne. Quand ils arrivaient à une extrémité de la halle, ils faisaient en chœur demi-tour, comme les soldats, et ils recommençaient leur morne bavardage. Ce soir, M. Fornet ne se contenait plus. « Vous savez, grondait-il, que ce brigand a définitivement acheté la maison du père André ?»« Oui, mon ami, répondit M. Pouget. Ce n'est pas une raison de t'alarmer. La Griffoule n'est qu'un faiseur d'embarras. Ce qui étonne, c'est que M. Charmasson, qui est un homme sérieux, donne son Hélène à un tel paltoquet. Et cette espèce de savant n'a pas le sou. Il est enchanté de caser sa fille. » Ma foi, nous avons vu tant d'invraisemblances se réaliser depuis la guerre, une de plus ou de moins ne nous fera pas mourir. Oi, c'est que moi, ça ne m'amuse pas d'avoir pour concurrent un homme jeune sans scrupules. Que veux-tu, c'est le progrès. Quel progrès? Ce mot-là ne signifie rien. On se donne plus de mal qu'autrefois, voilà tout. Tant que les gens ne seront pas plus honnêtes, il n'y aura de progrès nulle part. À la fin, les lamentations de Fornet agaçaient les camarades. Ils parlèrent d'autre chose, du collège, de la mairie, de la fête des jardiniers. Fornet grommelait tout seul dans son capuchon, lorsque tout à coup, il aperçut le petit Lagrifoule sortant en compagnie de sa mère de chez les Charmasson. Il grommela de plus belle, fit mine de s'arrêter. Mais les camarades, sans lui prêter la moindre pitié, marchaient toujours. Certes, la Griffoule ne pensait pas du tout au vieux mercier de la rue Saint-Roch. Il demandait à sa mère de conduire un jour prochain sa fiancée au grand jour de la Roustanienque. Maman Griffoule acquiesça sans peine. « Oui, Isidore, quand tu voudras, on fera ribote, mais sans trop dépenser. On nous croirait riches. »« Oh, tu as de quoi ?»« Eh, hé, ton magasin va me coûter les yeux de la tête. Enfin, pour une fois... » Sous les caresses de son fils, maman Lagrifoule cédait toujours. Seulement, quand ils atteignirent la boulangerie, Isidore eut envie d'aller au cercle rejoindre ses amis. « Au moins, lui recommanda sa mère, ne bois pas comme ton pauvre père. »« C'est fini, maman, je suis fiancée. » Tandis qu'elle descendait les deux marches de sa boutique, d'où le garçon partait pour la fontaine remplir sa comporte, Isidore disparut par la rue sombre des commandeurs qui aboutit à la place des Eaux-de-Vie, et de là, par une ruelle, il monta au cercle. Malgré ses promesses de ne plus boire, il buvait toujours dès qu'il se trouvait en société. Aussi, se méfiant de lui-même, il ne fréquentait le café que de loin en loin. Il rentra fort tard et il titubait si dangereusement que le garçon, qui achevait de pétrir son pain, dut le soutenir par les épaules pour accéder jusqu'à sa chambre. Grâce à Dieu, maman Lagrifoule ne sut rien de l'incident, ni la douce Hélène, qui n'avait jamais entendu parler du vice odieux de son fiancé. À quelques jours de là, on partit pour le grand jour, le matin d'un gai soleil qui éveilla la campagne, toute murmurante de ses premières feuilles. Par extraordinaire, maman Lagrifoule avait quitté sa boulangerie. À cause d'elle, on cheminait d'un pas de procession. Madame Charmasson était très heureuse, elle qui aimait tant les fêtes et en goûtait si peu. Hélène semblait fière, le buste droit, le visage brillant de fraîcheur. Et qu'il était amusant, ce chemin charretier, qui zigzaguait à travers les vignes et les luzernes, puis, entre des murs à demi délabrés, par-dessus lesquels s'inclinaient des branches d'amandier. Là-haut, au flanc du coteau de la Roustanienque, on apercevait le grand mur blanc du Grand Jau, et sur une terrasse, la maisonnette blanche au volet vert. On apercevait un morceau de la vigne, ses exubérants oliviers, dans les frissons de l'espace bleu. Enfin, voici le raidillon rocailleux qui gravit la pente de la Roustanienque. Maman Lagrifoule tira la grosse clé de sa poche. Dès qu'on entra, une bande d'oiseaux s'envola du potager et des lézards verts s'enfuirent dans leurs trous. Hélène regardait de tous ses yeux l'enclos charmant de paix et de simplicité qui promettait des jours de repos, de liesse au grand air pour les vendanges et la récolte des olives. Vers le milieu du potager, on gravit deux hautes marches de granit. Quand on fut sur la terrasse, d'où l'on découvrait là-bas, au centre de l'immense plaine, l'antique ville d'Usclas, répandue au pied de la butte de Montmorency, dans une couronne de platanes, Hélène poussa un cri d'admiration. « Que c'est beau ! Qu'on est bien ici !» Maman Lagrifoule, qui souriait d'un certain orgueil, essaya une description du paysage si radieux, jusque très loin, dans la bénédiction du ciel. Sur notre gauche, la grange des Marimont, ses aloès, ses pins. Les pentes du Noir Maldina, qui descendent jusqu'à la grange des Prés, où habita le prince de Conti, vous savez, du temps de Molière. Puis les jardins, les mûriers, et tout au fond, l'Hérault, qui défile sous de grands arbres. À notre droite, là-bas, la colline dorée des Ruffes, les bosquets de la Peine, notre capricieuse rivière, qui vient de la Chartreuse de Mougères. Hélène murmura « Oui, c'est notre pays. Dire qu'en somme, nous ne le connaissons pas beaucoup. Entrons. » La servante qu'on avait embauchée pour ce jour-là ouvrit la lourde porte de la maison, deux pièces assez grandes, la cuisine et la salle à manger, qui sentaient le bois trop sec et le papier jauni des innombrables images clouées au mur. « Mon grand jeu vous plaît ?» demanda maman Lagrifoule. « S'il ne nous plaisait pas, nous serions difficiles, » répondit sourdement Madame Charmasson. « Moi, je n'y viens guère depuis que je n'ai plus mon mari. Ça changera maintenant, n'est-ce pas, Hélène ?»«
Je l'espère. »«
Ah, pour toi, que je suis contente !» Maman Lagrifoule se lançait dans de nouvelles louanges lorsque la bonne l'interrompit.
« Madame, si on s'occupait du dîner !»«
Eh bien, vous savez ce que nous... » « Eh bien, vous savez ce que nous mettons.
D'abord, madame, il faut du bois, où le prendre, et aussi laver la vaisselle.
Tel, là-bas, dans ce coin du potager, vous voyez le puits, et de l'eau, si fraîche, une vraie glace. Le bois, vous le trouverez dans la vigne. Tu y vas, Hélène ?»
Hélène et la bonne coururent à la vigne, ramassèrent autour des souches et sous les oliviers des sarments oubliés à la taille de novembre, ainsi que des branchettes tombées sous le choc des bourrasques. Dans la vaste cheminée, on alluma un grand feu qui, de ses flammes dansantes, ranima l'âme ingénue de la maison champêtre. Cependant, Hélène s'étonnait qu'Isidore ne fût pas encore rendu. Elle n'osait trahir son inquiétude d'un tel défaut d'empressement. Mais comme elle ne parlait plus, maman Lagrifoule la pressentit.
« Tu t'inquiètes de Isidore, je parie. »
« Oui, ma foi, ne lui serait-il pas arrivé quelque chose ?»«
Non, va, c'est que tout le monde l'arrête dans les rues. »
On dressa la table, des planches sur deux tréteaux, au mi-temps de la terrasse, sous les arabesques de la treille, qui projetait, avec une ombre légère, le parfum de ses bourgeons mouillés de sève. À midi, tout était prêt et Isidore ne se montrait pas. Hélène se hissa bravement sur le parapet afin de guetter aux alentours. Au moment que maman Lagrifoule maugréait que le gigot serait brûlé, une voix rieuse éclata dans le silence.
« Ouais, hop ! Ouais, hop !
Ah, le voilà !
Mais où donc ?
Je suis ici !»
Isidore posait le pied sur le seuil de l'enclos, au-dessous de la terrasse.
« Dépêche-toi, mon fils, il est 1 heure.
Je me dépêche tant que je peux. »
En effet, il avait quelque mérite à marcher avec tant de hâte, car il portait à chaque main un paquet volumineux. Il monta les marches de granit et, sur la terrasse, contre le mur, se débarrassa de ses paquets avec précaution.
« T'es, que portes-tu là ?
Vous le saurez après dîner. Je suis artiste à mes moments perdus. » Ôtant son feutre à larges ailes, il s'avança délibérément vers Hélène et, avant qu'elle fût revenue de sa surprise, il l'embrassa sans cérémonie. Il caressa de tapes gentilles le dos de Madame Charmasson, embrassa tendrement sa mère. Après quoi, il s'assit à table en maître.
« Venez ici, Hélène, auprès de moi. Nos mamans se mettront en face de nous. »
Le dîner fut gai dans l'innocence étincelante de ce jour de printemps. Tout de même, Hélène n'était pas assez familière d'Isidore pour ne pas s'émouvoir de la vivacité de ses gestes et de ses discours. Il mangeait, buvait avec appétit, passait une main puis l'autre sur son maigre visage de moricaud pour exciter sans doute son inspiration.
« Enfin, Isidore, comment avez-vous été tellement en retard ?»«
Mon Dieu, Hélène, tant d'affaires. On ne sait pas travailler ici. Il faudra leur apprendre quand nous aurons le magasin. » Dès demain, les ouvriers flanquent par terre la bicoque du père André. 10 ouvriers, la besogne ira très bien.
On t'en veut beaucoup, insinua la mère d'Hélène. Est-ce que ça ne t'alarme pas un peu?
Non, la médisance fait du bien aux hommes d'esprit et d'initiative.
Hélène observait Isidore avec une sorte d'admiration mêlée d'effroi.
Il y a quelqu'un qui n'est pas commode, dit-elle, c'est Monsieur Fornet.
« Bah, un grotesque qui a eu de la chance. Nous lui chipperons sa clientèle. »
Après les radis, les olives, le beurre, on avait savouré de belles tranches de gigot. Au dessert, petit pâté, oreillettes saupoudrées de sucre. Lagrifoule attrapa la bouteille de Pomerol, le vin blanc renommé du terroir proche de Frontignan, et, avec l'onction d'un connaisseur, il en versa dans les verres, mais en telle quantité qu'Hélène protesta.
« Ne vous fâchez pas pour si peu, » repartit Lagrifoule. « Allons, à la santé de ma fiancée et de nous tous, et même des absents. »
Quand la bonne servit le café, Lagrifoule alluma un gros cigare, et puisqu'on était impatient de connaître le mystère de ces paquets volumineux, il s'expliqua. « Une surprise qui vient de Paris. On n'en finissait plus, à la gare, de me la délivrer. C'est pourquoi j'ai été en retard. » Là-dedans, il y a tout un matériel de peinture.
De peinture ? Dit Hélène.
Parbleu, je ne suis pas seulement un boutiquier.
Ah ! Fit-elle penaude, pourtant, il ne faudrait pas négliger le travail sérieux.
Il y a un temps pour tout, Hélène. Vous ne connaissez pas tous mes talents.
Tu ne m'avais pas dit ça, interrompit maman Lagrifoule, qui d'ailleurs demeurait en extase. Où donc as-tu appris la peinture ?
« Moi, tout seul. »
Hélène se demandait ce que papa Charmasson penserait des fantaisies de son gendre. Celui-ci, tout à coup, lui saisit les mains avec tant de ferveur qu'elle frissonna.
« Je vais avoir besoin de vous, Hélène. »«
De moi, je ne suis pas artiste. »«
Que vous êtes drôle. L'artiste, c'est moi qui veux essayer votre portrait. Ici, ou bien dans un coin du parterre à l'ombre. »
On descendit les 2 marches de la terrasse. Dans un coin du parterre aux pauvres fleurs sauvages, Hélène s'installa sur un des antiques fauteuils au siège de paille. Lorsque Lagrifoule eut établi, à 2 mètres du modèle, son chevalet, il s'assit sur un escabeau,
et comme il voulait travailler à son gré, sans témoin, il ordonna d'un ton bref aux deux mamans de se retirer jusqu'à leur place de tout à l'heure. Hélène, tenant d'une main un rameau d'olivier, posant l'autre sur son genou, souriait par bienveillance, car elle jugeait plus que bizarre, inepte, le caprice imprévu de son fiancé. Une fois de plus, elle se sacrifiait de bon cœur dans l'intérêt de ses parents. Ah, combien elle eût préféré s'en aller dans la vigne, sous les branches de l'olivette, respirer le vent pur du ciel et du coteau, ou bien, dans le fond du vallon, sur les bords du Tartuyer, ramasser des morilles et des doucettes. La Griffoule, l'œil attentif, presque sombre, les lèvres serrées sous la moustache drue, abîmait des pattes de son pinceau la toile grise, sans avoir pris la peine d'esquisser un dessin. D'une heure, il ne fut point relâche. Une heure si longue qu'Hélène, malgré son endurance, eut un éblouissement. Sa main laissa échapper le rameau léger et sa tête, brusquement, se pencha sur l'épaule. Enfin, la Griffoule s'aperçut de son indiscrétion. « Oh, Hélène, mes excuses, reposons-nous. J'avoue, ma foi, que je suis fatiguée. Dans le feu de la composition, j'oubliais les plus élémentaires convenances. Excusez-moi, je voudrais traduire l'aristocratie de votre personne. Ne vous moquez pas de moi, Isidore. Pas du tout, peu cher. Je ne sais que trop mal dire mon adoration de vos charmes. Soit, est-ce que je peux voir? Pas encore. » Les deux mamans profitèrent de cet intervalle de repos pour s'avancer ensemble jusqu'au seuil de la terrasse. Maman la Griffoule, en souriant de sa hardiesse, demanda « Isidore, est-ce que tu ne pourrais pas nous délivrer ?»« Mais si, nous irions nous promener par là, autour du Grand Jau. » »« Mais si, ne l'embinez pas. » Elles partirent au plus vite de leurs jambes lourdes, qu'Hélène regarda non sans envie disparaître par la verte allée du jardin. Elle comprit qu'elle serait également délivrée plus tôt si elle reprenait tout de suite la pose. Et de nouveau, la Griffoule abîma la toile à coups de pinceau. Après une demi-heure, elle ne put davantage contenir sa défaillance. « Assez pour aujourd'hui, n'est-ce pas, Isidore ?» Comme il enlevait délicatement du chevalet la toile humide, elle demanda « Puis-je voir ?»« Ce n'est qu'une ébauche. » Elle s'approcha, câline, se moquant d'elle-même de ses appréhensions. Dès qu'elle aperçut le gribouillage de cette figure sans âge, le nez gros, la bouche ouverte, le front bleu, les cheveux jaunes, elle poussa un cri d'horreur. « Oh, c'est moi ?» La Griffoule tressaillit de stupéfaction, de dépit. « Oui, je crois que c'est vous, puisque j'ai copié. »« Alors, je suis bien laide !» « Ne vous calomniez pas, Hélène, seulement il y a des gens qui ne savent pas voir. »« En effet, vous avez raison. Mais si vous, Isidore, vous me voyez de cette façon, je ne suis pas digne d'être aimée. Mon Dieu, mon Dieu !» Elle éclata en sanglots et, comme une petite enfant, elle s'appuya au mur pour pleurer. La Griffoule, sans force, ne bougeait plus, tenant d'une main sa toile, de l'autre taquinant sa barbe. Madame Charmasson, qui revenait seule de la vigne, surprit Hélène en désolation contre le mur. « Qu'y a-t-il ? » s'écria-t-elle en escaladant l'escalier du parterre. « Hélène, ma fille !»« Isidore, fais de moi un portrait abominable !»« Tu plaisantes, toi qui es si jolie ?» La Griffoule cachait sa toile comme le témoignage d'une faute, irréparable peut-être, et pris de compassion à l'égard d'Hélène ainsi que de lui-même, il balbutia « C'est de la peinture moderne, pardi !»« Non, non, je n'en veux à aucun prix !» gronda Hélène. Maman la Griffoule, qui était arrivée sans bruit, voulut charitablement concilier les deux parties. « Hélène a raison, mon fils, peins le paysage si cela te convient. Les arbres, qu'ils soient tordus ou malingres dans une peinture, ne se fâchent pas. Mais le portrait d'une jeune fille, c'est trop difficile. Et puis, tu es trop émue devant ta fiancée. C'est vrai. T'es, allons en balade. » La Griffoule plia son bagage d'artiste et le porta sur la terrasse, sous la brune ramée des grenadiers, aux bourgeons écarlates. Et tous ensemble, par un sentier de vigne, ils descendirent dans le fond du vallon de Tartuyer, sur les bords du ruisseau, qui, parfois, saute comme un poisson au contact d'une pierre,
à l'ombre des tilleuls et des platanes, dont le soleil n'éclairait plus que les cimes. Hélène s'évertuait de son mieux à montrer une humeur insouciante, à bavarder, à rire. Mais le cœur n'y était plus. Son Isidore ne serait-il qu'un glorieux personnage ou un imbécile ? Elle gardait de longs silences à son insu. Aussi vit-elle, avec soulagement, poindre à l'horizon, là-bas, sur les garrigues de l'Hérault, la pâle nuée du crépuscule. On remonta au grand jour. La bonne y avait déjà préparé le retour à la ville. Ne portant guère sur la tête, dans sa corbeille d'osier, que le bagage du peintre, elle partit la première. Et la griffoule entraîna le cœur des trois femmes, qu'il essayait d'éblouir par d'enthousiastes descriptions de la banlieue parisienne. Dans le chemin sinueux, survenaient de temps à autre des travailleurs de la terre, poussiéreux, les uns fumant la pipe, d'autres des vieux, juchés sur le large bas d'un âne. Juste, voilà qu'avant le chemin de fer, M. Azéma, le pharmacien de la halle, gros homme trapu à lunettes, sortait de son grand jeu. On fit route en amitié familière. Bientôt, les trois femmes restant en arrière, M. Azéma entreprit ce parisien de la griffoule. « Eh bien, ta maison, quand commences-tu les travaux ?»« Demain, ça ira rondement. Avouez que le pays a besoin d'être secoué dans sa torpeur. » Garde de ne pas dépenser pour rien les économies de ta mère. Tu ne détourneras jamais dans ton bazar le monde qui se fournit chez Fornet. D'ailleurs, il a de l'argent lui aussi, il est homme à se défendre. Fornet, ce préhistorique, je ne le crains pas. Tu as tort, il a plusieurs tours dans son sac, et il n'est pas seul à te faire des reproches. Courtès, Pouget, Julien, qui sont des marchands considérables, se plaignent de tes projets de bouleversement. La griffoule se mit à rire. « Vous aussi, monsieur Azéma ?»«
Oui, moi aussi. »«
Bah, de nouvelles habitudes à prendre. Plus tard, vous me remercierez. »« En attendant, on ne parle que de toi. Quelle gloire !»«
Quelle réclame !»
On atteignait la rue Saint-Jean. Monsieur Azéma fila par le grand planol afin de rentrer seul par la place des eaux-de-vie dans sa pharmacie de la halle. Sur le planol, dans la rue, partout, on regardait la griffoule comme un phénomène, on chuchotait sur son passage. À la boulangerie, il laissa sa mère qui était rompue de fatigue. Fier de se montrer entre sa fiancée si sérieuse et Madame Charmasson, épouse respectée d'un notable, il les accompagna jusqu'à la librairie. Seulement, de la placette de l'église où se confond la rue Saint-Roch, Hélène remarqua que M. Fornet, au lieu de les saluer selon l'usage, s'enfermait précipitamment dans sa boutique. De même, Pouget et Courtès, feignant de ne pas la voir avec sa mère et son fiancé, leur tournèrent le dos. Est-ce qu'on allait être brouillé avec ces braves gens, vivre au milieu d'un quartier hostile ? Hélène éprouva une angoisse qu'elle eut néanmoins le courage de ne point trahir. À la librairie, M. Charmasson, sa calotte de velours sur la tête, était assis derrière la banque, dans la pénombre des livres, et, comme à l'ordinaire, il rêvait. La griffoule d'un cordial salut le réveilla. « Bonsoir, cousin, je vous amène à la famille. »«
Parfait, parfait, on s'est bien amusé. » »«
Oui, journée délicieuse. Il y a même une surprise qu'Hélène vous racontera. »«
Allons, bonsoir, je suis pressé. »
Et sans attendre une réponse, après qu'il eut embrassé Hélène, il sortit d'un élan, la tête haute, en balançant les bras.